Bonjour à vous, merci d'être au rendez-vous du grand face-à-face. On est en direct sur France Inter avec au sommaire de l'émission le retour sur la semaine avec le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis dans une vingtaine de minutes, rendez-vous avec l'une des philosophes les plus douées de sa génération. Elle publie Les Lendemains qui chantent, les lents comme la lenteur. En deux mots donc, Les Lendemains qui chantent aux éditions de l'Observatoire. Et c'est un titre qui prend tout un sens que vous découvrirez tout à l'heure. Elle enseigne notre invitée la philosophie, elle la pratique aussi en ligne et notamment sur Twitter où elle démonte les arguments des racistes mais souvent aussi ceux des antiracistes. Quel regard porte-t-elle sur ce monde de demain, le demain qui chante ou qui déchante, ce demain qui est un aujourd'hui et on pensait peut-être que la crise que nous avons traversée nous aurait réunis. On peut s'apercevoir que ce sont les débats sur le racisme, les violences qui dominent l'espace public. Et on lui demandera si elle se l'explique. Rendez-vous avec Marilyn Maesso donc dans une vingtaine de minutes. Tout de suite le duel.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Ce n'est pas un secret, Gilles. C'était même inscrit à l'agenda officiel de l'Élysée. Gilles, vous avez déjeuné hier avec le président de la République. Emmanuel Macron recevait les patrons des principaux think tanks français de droite et de gauche. Et comme vous dirigez l'un des principaux, sinon le principal think tank français, la Fondation Jean Jaurès, vous y étiez. Bon, vous nous racontez?
Évidemment non. Je n'avais pas vu le président de la République depuis presque 4 ans, à l'exception du grand débat avec les intellectuels pendant la crise des Gilets jaunes et le grand débat qui a suivi. Donc c'est la première fois que je le revoyais. Et comme vous l'avez dit, je ne suis pas fidèle. Bon, mais j'ai un vieux fond de culture républicaine qui fait que quand le président de la République me demande de venir discuter avec lui, j'y vais évidemment, d'autant plus que, en l'espèce, vous l'avez dit, j'y vais en qualité de directeur d'une fondation qui est une fondation d'utilité publique. Et en sortant, je ne raconte pas. C'est-à-dire que
Quelle déception.
Oui, quelle déception, mais d'autant moins que je n'ai pas beaucoup de secrets à livrer, parce que s'il y avait des secrets, je ne suis pas sûr que c'est à nous qu'il les aurait donnés. Maintenant, je trouve positif et je comprends que le président de la République, dans le moment qui est celui de notre pays, soit lui-même dans un moment de réflexion sur ce que doit être la nouvelle étape, parce que il est dans une situation qui est à la fois très très traditionnelle, que beaucoup de présidents ont connu en fait avant lui, d'affaiblissement politique
et on va en parler dans un instant,
à la fois personnel mais aussi dans une situation qui est très très exceptionnelle, et on va y revenir.
Bon, donc vous ne nous direz rien, Natacha, vous ne voulez pas essayer de lui poser la question de votre côté?
Je pense que Gilles vient de répondre, mais cela dit, la question de savoir s'il faut raconter ou pas ce genre de moment est une véritable question. C'est-à-dire que il y a là des représentants, en effet, de think tank. La Fondation Jean Jaurès est une fondation d'utilité publique. S'y mêlent donc des questions de financement par le contribuable et surtout de responsabilité des citoyens. Y a-t-il des secrets à avoir ou pas? De quel ordre sont-ils? C'est une question qui est complexe, qui n'est pas si simple que ça, parce que de fait j'imagine déjà la réaction de certains auditeurs de France Inter qui vont se dire, mais enfin, au nom de quoi on ne nous raconte pas, ça devrait être public dans la mesure où c'est la parole d'un président vis-à-vis de représentants de différentes entités qui ont un rôle à jouer dans la démocratie, un rôle essentiel. J'avoue que je ne suis pas certaine que la réponse qui consiste à dire évidemment ça ne se raconte pas soit simple. Mais après, la question de savoir pourquoi Emmanuel Macron, mais je respecte parfaitement le choix de Gilles, et c'est pour ça que je n'insisterai pas.
Mais vous préférez la transparence de Jean-Marie Bigard, par exemple, qui lui raconte ses conversations avec le président de la République?
C'est pas de la transparence, c'est de la provocation.
Je préfère encore le silence de Gilles.
Mais tout dépend ce qu'on raconte, tout dépend comment on le fait. Non, c'est simplement, au-delà de la boutade, la question de savoir qui Emmanuel Macron rencontre, pourquoi et dans quelles circonstances est d'autant plus intéressante qu'on va en parler. Il y a en effet un tournant majeur, une difficulté politique pour lui parce qu'il a un petit peu de mal visiblement à retrouver le peuple si tant est qu'il l'ait jamais trouvé.
Mais en tout cas, il a eu raison d'avoir envie d'échanger et d'écouter Gilles Finkelstein, le président de la République, qui prendra la parole de manière très solennelle demain à 20h. Je vous propose de l'écouter, c'était il n'y a pas si longtemps.
Comme vous, j'ai vu des ratés, encore trop de lenteur, de procédures inutiles, des faiblesses aussi de notre logistique. Nous en tirerons toutes les conséquences, en temps voulu, quand il s'agira de nous réorganiser. Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer. Moi le premier.
Le président de la République, Emmanuel Macron, c'était le 13 avril, au cours de ce discours où il avait annoncé la date du 11 mai, donc la date du déconfinement, et où il nous donnait rendez-vous après, au moment où la crise serait passée. Je ne sais pas si c'est entièrement le cas, mais nous sommes peut-être à ce moment-là où il faut tirer toutes les conséquences, celles dont parlait Emmanuel Macron le 13 avril dernier. Il s'adressera donc solennellement à la Nation demain à 20h. Natacha, je n'allais pas vous demander quelles sont vos attentes, mais pourquoi est-ce que c'est un moment important, une prise de parole importante du président de la République après un si long silence?
Oui, ça ne se dit pas en termes d'attente de la part de journalistes, ce n'est pas le problème.
Vous êtes aussi une citoyenne.
Oui, mais même la question de savoir ce que moi j'attends ne se pose pas. La question est d'essayer de comprendre pourquoi cette prise de parole est importante, pourquoi elle est nécessaire pour le président. Vous l'avez dit, il y a eu un long silence, mais surtout nous sommes dans ce moment d'entre-deux où nous semblons sortis de la crise sanitaire, mais pour entrer dans une crise économique absolument majeure, même si pour l'instant les effets sociaux ne se ressentent pas. Emmanuel Macron, lors de sa précédente intervention, a promis de se réinventer lui-même. En gros, quand un président en 5e République est en difficulté, quand il a l'impression, je le disais, d'avoir perdu le peuple, ou en tout cas de ne plus avoir d'assises suffisantes et de légitimité politique suffisante, parce que, ne nous mentons pas, l'élection présidentielle donne évidemment une légitimité, mais ça ne suffit pas. Eh bien, dans ces cas-là, il a assez peu de possibilités qui s'offrent à lui. Il y en a quelques-unes. La dissolution, ce serait une possibilité, ça lui permettrait peut-être d'avoir une cohabitation, et encore, ce serait complexe. Mais surtout, ça détruirait la seule chose qui lui reste, à savoir des députés La République En Marche, puisqu'il a quand même assez peu de troupes à part cela. Donc ce serait éminemment dangereux. Et le jeu qui consiste à dire, mais dans ces cas-là, après une cohabitation, il se fait réélire, me semble appartenir, à l'ancien monde. Alors, il reste quoi? Il reste le référendum, qui consiste à remettre sa légitimité dans la balance.
Mais un référendum sur quel sujet?
Bah sur un sujet important, sur un sujet par exemple comme une réforme institutionnelle, c'est-à-dire allant vers plus de démocratie ou quelque chose de ce genre, reprenant par exemple sa promesse de mettre de la proportionnelle aux élections législatives, ce genre de choses. Et à cette occasion, un président peut dire, comme le faisait De Gaulle, en gros, votez pour moi, votez oui ou je m'en vais. Ce qui est une façon de partir dans l'honneur une fois qu'on considère qu'on n'a plus de légitimité. Visiblement, Emmanuel Macron ne choisit pas ce genre de choses. Alors après, il y a les informations, l'information sortie par le Figaro Magazine, selon laquelle le président aurait parlé lors d'une visioconférence avec ses grands donateurs de sa campagne de 2017 et aurait évoqué l'idée d'une démission pour une nouvelle élection 35 jours après. Ça semble totalement rocambolesque, mais ce qui est significatif, c'est qu'on voit qu'on est vraiment dans une période où tout peut sembler possible et où Emmanuel Macron finalement n'a que très peu de possibilités de sortir de cette défiance majeure qui risque de plomber, de pourrir la fin de son quinquennat.
Gilles Finkelstein.
Oui, je le disais tout à l'heure, là, il est dans une situation à la fois traditionnelle d'un président de la République après 3 années de mandat qui est affaibli à la fois par son impopularité dans l'opinion, par un gouvernement dont on l'a vu cette semaine dont certains membres sont fragilisés, par une majorité à l'Assemblée nationale qui se délite. On a vu quand même dans les dernières semaines deux groupes issus du groupe majoritaire se constituer à l'extérieur et une implantation municipale qui sera, à n'en pas douter, un échec. Donc ça, disons que c'est ce qui est un affaiblissement traditionnel, peut-être plus important. Mais il y a une situation qui s'ajoute et qui est exceptionnelle, le fait qu'il y ait, si j'essaye de résumer, presque un nouveau mandat qui commence et qui va être un quinquennat, non pas de 5 ans, mais un quinquennat de 5 trimestres,
ah oui,
dans la mesure où les réformes qui ont été engagées auparavant sont, et le bilan dont le président de la République pouvait se prévaloir, en tout cas dont il pouvait essayer de défendre, que tout cela est largement effacé par la crise sanitaire et la crise économique. Donc il a un quinquennat très court, et qui dont la priorité va être d'éteindre le feu économique et social qui est en train de prendre. Donc tout ça mérite évidemment une réflexion, mais je trouve que la manière dont on le prend souvent dans le débat public, ce que vient de faire un peu Natacha, c'est-à-dire soit par quel mode de relégitimation, dissolution, référendum, démission, soit quel dispositif politique, quel premier ministre, quel gouvernement, ce n'est pas prendre le sujet par le bon bout. C'est-à-dire que la question de départ, c'est pour moi, hein, c'est quelle doit être l'orientation, la réorientation, l'ampleur de cette réorientation. C'est ça la question qui lui est posée, et de cette question-là découle le reste. Si on est sur une grande réorientation, sur un tournant écologique, un tournant souverainiste, je ne sais quoi. Quelque chose qui vraiment se démarque de ce qui a été fait, à ce moment-là, évidemment qu'il faut un autre dispositif politique, un autre gouvernement et sans doute un autre Premier ministre, et peut-être faut-il une nouvelle légitimation. S'il est sur une adaptation de ce qui avait été fait, s'il est dans la même ligne avec quelques légères inflexions, la question se pose dans des termes qui sont évidemment différents.
Natacha, encore un mot sur le sujet avant de passer à ce qui fait l'actualité et les manifestations dont vous parlez, Alexandra Dubouchon, tout à l'heure.
Oui, un mot pour dire que je souscris évidemment à ce que vient de dire Gilles. La question à se poser en premier lieu est de savoir quelle politique on veut mener. Et le fait que je le prenne par le biais, j'allais dire, institutionnel, démontre que je crains, hélas, que ce ne soit la façon dont la chose est prise par Emmanuel Macron et son entourage. C'est-à-dire, quel message envoyer? Parce que sur le
fond... Ça, on le saura demain à 20h.
Je suis d'un naturel un peu pessimiste, peut-être, ou en tout cas, chat échaudé, craint l'eau froide. Je pense que seuls les actes valent, et pas seulement les paroles, et que en matière d'actes, jusqu'à présent, Emmanuel Macron ne les a pas souvent fait coïncider avec les paroles. C'est pour cela que, même si j'ai pu ici même dire à quel point je me réjouissais que, au moins, cette crise dramatique ait permis de prendre conscience de l'importance de la notion de souveraineté, de l'indépendance, de la question de la réindustrialisation, tout ce genre de sujet, j'attends de voir, justement, ce qui peut être fait et si réellement le changement sera majeur. En effet, nous attendons toujours.
Gilles ?
Oui, j'attends aussi, je m'interroge tout autant que Natacha. En revanche, je doute que ce que vous espériez, cher Ali, que demain à 20h nous soyons fixés avec l'intervention du président de la République, je doute que ce soit le cas, parce que je ne vois pas comment, dans cet intervalle avant les élections municipales, les grandes orientations de cette nouvelle partie du quinquennat ou de ce nouveau mandat soient dévoilées. Je pense qu'il va vous falloir patienter un peu plus. Je reviens peut-être d'un mot sur la discussion qu'on a eue au départ sur le secret, parce que c'est un vrai beau débat démocratique.
On passe sur le silence après votre déjeuner, donc en compagnie d'autres patrons de think tank avec le président de la République hier.
Oui, donc je comprends très bien et je suis sûr que beaucoup d'éditeurs ne doivent pas comprendre ma position. Tout ce que fait la Fondation Jean Jaurès, toutes ses publications sont disponibles gratuitement pour l'ensemble des citoyens. C'est une règle que nous fixons. On a parfois, c'est très rare, des séminaires qui sont des séminaires fermés quand on considère que ce que l'on peut faire d'utile, c'est de mettre autour de la table, sans autre enjeu que la discussion des gens qui ont du mal à discuter ailleurs. Mais pour l'essentiel, ce qu'on fait est public. Quand je vois le président de la République, je trouve légitime qu'il puisse, lui, avoir des moments de discussion qui ne sont pas sous le feu des projecteurs qui et donc je considère que certaines traditions républicaines de ne pas se répandre dans les médias pour raconter le lendemain ce que l'on a dit et a fortiori ce que le président de la République a dit.
D'autres font le choix très différent, le choix contraire du vôtre. Je le dis en souriant et tout le monde aura compris de qui je parle. On passe au prochain sujet, le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme. Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'acte ou de propos racistes.
Monsieur Castaner a eu des propos, entre autres. On lui demande de revenir sur ses propos. Mais à travers Monsieur Castaner, ça ne suffit pas. Nous, ce qui nous gêne, c'est le climat social ambiant et la stigmatisation qu'il y a sur les policiers à longueur de temps.
Nous, nos collègues, ils sont de toutes les couleurs et on ne fait pas des arrestations en fonction de la couleur de peau des gens sur la voie publique.
Hier, on a vu les syndicats de police manifester un peu partout en France, jeter symboliquement leurs menottes à terre. Et hier soir, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, confirmait la suppression de cette technique d'intervention dite d'étranglement. C'est un sujet qui faisait débat ces derniers jours et qui était au centre des discussions sur les violences policières. Natacha, quel regard portez-vous sur ce malaise? D'un côté, la police qui est pointée du doigt pour son racisme ou le racisme de policiers, pour sa violence ou les violences de certains policiers. Chacun se fera son opinion. D'un côté, donc, oui, les dénonciations, et de l'autre, le malaise d'un corps républicain qui en a ras-le-bol d'être pointé du doigt pour être dénoncé.
Je pense que le problème est que nous sommes face à deux légitimités et face à deux discours qui peuvent s'entendre. C'est-à-dire que nous avons en effet des gens qui s'insurgent contre des violences policières qui existent, qui sont indéniables. Il y a des violences policières qui sont inacceptables. Et le fait qu'on puisse trouver des groupes Facebook rassemblant beaucoup de policiers qui tiennent des propos racistes est inacceptable aussi. Et il y a donc du racisme chez certains fonctionnaires de police, c'est indéniable. Et de l'autre côté, on ne peut pas non plus nier qu'il y a, et de plus en plus, une violence à l'encontre de tous les représentants des institutions de la République, et en particulier les policiers, que cette violence s'est aggravée avec l'usage que le pouvoir a fait de la police lors des manifestations de Gilets jaunes, et ce qui a en fait mis les policiers en première ligne d'une façon qui était sans doute profondément malsaine. Et puis à côté de ça, il y a une violence quotidienne, permanente, dans certains endroits, contre les policiers, parce que on y a laissé depuis des décennies s'installer une logique tribale, une logique d'occupation de territoire et de, par certains trafics.
Tribal.
Qui, du coup, oui, c'est-à-dire, je veux dire par là, que on a des lieux où vous avez des trafiquants qui tiennent certains territoires, qui tiennent en otage la population qui y habite, avec une instrumentalisation de certains par l'argent, et qui considère que quand les forces de l'ordre, c'est-à-dire les représentants de l'État, de la République, viennent sur ce territoire, c'est comme une tribu adverse qui attaque et dont il faut absolument se débarrasser. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'ordre républicain. Et c'est les premiers à en souffrir sont les habitants de ces quartiers. Donc on a ces deux réalités qui se cognent. Il faut traiter les deux réalités en même temps. Et ça nécessite à la fois énormément de volonté politique, d'action, notamment par exemple contre les violences policières, une action de la justice beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace aussi, parce qu'elle ne l'est pas pour l'instant, peut-être une instance indépendante pour enquêter sur la police, qui ne sont pas...
Donc non pas l'IGPN.
Non pas l'IGPN, tout ça est à réfléchir, ce sont des hypothèses. En tout cas, une meilleure formation des policiers. Il y a des syndicats de policiers qui ont un discours très raisonnable là-dessus, la CFDT en particulier. Donc, il y a des choses à faire. Mais il faut aussi y mettre une finesse dans l'analyse et dans le langage que n'a peut-être pas l'actuel ministre de l'Intérieur. Et c'est bien dommageable quand l'ambiance est inflammable à ce point.
Gilles.
Oui, je reprends, je prolonge ce que dit Natacha, je suis assez largement d'accord avec ce qu'elle a dit. Il y a un malaise, et même un double malaise, un malaise des policiers qui ont un métier, exercent un métier qui est un métier dangereux et pour lequel ils ont peu de reconnaissance et symbolique et financière. C'est un métier dans lequel le taux de suicide est très important, c'est un métier difficile. Et il y a un malaise vis-à-vis de la police, d'une partie de la population, qui est une réalité. Et souvent, on prend les chiffres globaux de soutien ou de bonne image ou de confiance envers la police, sans regarder un peu plus dans le détail. Il y a une partie de la population, notamment sa jeunesse, qui y a un vrai problème. Et il y a des questions et de violence et de discrimination. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce malaise s'est transformé en crise. Cette crise, elle était sans doute latente depuis de nombreuses années. Sans doute a-t-elle été masquée par les attentats qui ont recréé un lien entre les Français et leur police. On a admiré le courage, on a pleuré avec les policiers qui avaient été victimes des attentats.
Ça semble loin.
Ça semble loin, et donc elle s'est révélée à nouveau avec les gilets jaunes et les manifestations, et elle a explosé cette semaine. Et je dois dire que je serais un peu plus sévère, mais j'ai senti qu'il y avait une pointe d'ironie dans le propos de Natacha. Elle a explosé cette semaine et qu'il y a une responsabilité lourde du gouvernement, qui a quand même réussi à la fois à choisir les mauvais mots. Il y avait quand même une absence de maîtrise dans le vocabulaire du ministre de l'Intérieur. Elle l'a fait au mauvais moment. Le président de la République a essayé de ne pas traiter cette question-là à chaud pendant les Gilets jaunes. Il avait pris l'engagement que cette question serait traitée au début du mois de janvier. Depuis, il ne s'est rien passé et donc il se retrouve à nouveau à la traiter à chaud. Et enfin, avec une mauvaise méthode, c'est-à-dire les décisions qui sont, je trouve, des décisions qui peuvent être défendues, n'ont pas été préparées, n'ont pas été négociées. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec une crise et il faut essayer de pacifier tout ça et de traiter les sujets au fond. Il y en a de nombreux, je le disais, y compris la semaine dernière, sur les méthodes policières, sur l'organisation entre la police nationale et la police municipale, c'est-à-dire retrouver une doctrine de la police et recréer un lien de confiance et de respect dans les deux sens.
Bientôt midi 27 à suivre dans le grand face-à-face de France Inter, le débat avec la philosophe Marilyn Maesso.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Marilyn Maesso, je vous le disais, philosophe, l'une des philosophes les plus douées de sa génération, et elle publie Les Lendemains qui chantent, Les Lendemains en deux mots, aux éditions de l'Observatoire. Elle enseigne la philosophie, elle la pratique en ligne, notamment sur Twitter. Elle démonte les arguments des racistes, mais aussi des antiracistes. Elle invite aussi à la discussion les personnes les plus vindicatives pour les civiliser peut-être, ou en tout cas rêver qu'un vrai dialogue puisse s'établir entre des personnes qui, a priori, n'ont que des mots d'oiseaux à se mettre dans la figure. À quelques heures maintenant du nouveau rassemblement à l'appel du collectif Adama Traoré, quel regard porte-t-elle sur les différentes formes de la révolte contre le racisme qu'on a vu s'exprimer depuis quelques semaines? Les mots d'ordre, les statues, les monuments qu'on pointe du doigt, notamment ceux qu'on dégrade, ceux qu'on détruit parce qu'ils seraient les symboles de l'esclavage, du colonialisme, de l'oppression ou d'un passé qui ne passe pas. On aurait pu penser que la crise que nous traversons nous aurait réunis, mais c'est le débat sur le racisme, sur les violences policières qui dominent l'espace public aujourd'hui. Bonjour Marilyn Maesso.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter. Les Lendemains qui chantent sont passionnants. Vous avez aussi écrit sur les conspirateurs du silence. C'est pas un livre qui concerne Gilles Finkelstein, mais c'était il y a 2 ans. Et c'est assez intéressant justement pour voir ce qu'on peut faire pour essayer de dialoguer quand le dialogue semble absolument impossible. Mais comment expliquez-vous qu'on soit sorti de cette crise qui aurait pu créer quelque chose comme l'impression d'avoir un destin commun, qu'on soit sorti de cette crise avec les fractures les plus dures de notre société qui s'expriment?
C'est une très bonne question et je pense que ce qui l'explique, c'est peut-être qu'on en attend un peu beaucoup des crises. Il y a une sorte de croyance en fait au pouvoir de régénérescence des crises qui implique que lorsqu'il y a une crise, les gens se soudent en raison de ce contexte exceptionnel et que cette nouvelle solidarité devrait survivre au contexte exceptionnel de crise. Sauf que justement, le contexte de crise étant exceptionnel, l'idée que la solidarité qui s'est forgée dans ce contexte exceptionnel devrait demeurer telle quelle sans qu'on la cultive me semble un peu illusoire. On me demande comment ça se fait que, alors qu'on était soudés dans la crise, d'un seul coup, il y a des divisions qui apparaissent.
Oui.
Je n'interprète pas du tout la situation comme ça, en fait. Ces divisions préexistaient à la crise. La crise a focalisé l'attention sur les problématiques essentiellement sanitaires pour des raisons évidentes. Et maintenant que cette crise, disons, est sur la descente, il est logique que les problèmes qui étaient déjà extrêmement brûlants antérieurement à la crise resurgissent, en particulier dans le contexte d'indignation internationale qu'a créé la mort de George Floyd.
Oui, bien sûr, et ça, on va en parler. Et d'ailleurs, des raisons pour lesquelles ce meurtre raciste d'un homme noir aux États-Unis a eu un écho partout dans le monde. Je vais donner la parole à Natacha et Gilles dans un instant. Mais donc, c'est l'an demain qui chante, et je le dis encore une fois, c'est en deux mots, les lendemains qui chantent. On y est sans y être au fond. Il faut arrêter de considérer que ce que nous avons vécu était une période absolument extraordinaire.
Oui, je pense que c'est normal, hein. C'est humain quand on vit une situation aussi dramatique, puisqu'il y a des morts, il y a le fait d'être isolé, il y a la peur de perdre un être cher ou de tomber soi-même malade. Il est logique, si vous voulez, qu'on raccroche beaucoup d'espoir dans le lendemain, dans le fameux après, le monde d'après.
Oui.
Sauf que le monde n'a pas changé en raison du coronavirus, ça n'est pas un virus qui va changer le monde. Des virus, il y en a plein, il y en a en permanence. Et le monde n'arrête pas de tourner tel qu'il est pour autant. Je pense qu'en fait, c'est ce que j'ai voulu dire quand j'ai joué sur les mots en parlant de l'an demain qui chante. C'est pour expliquer que la notion de demain, c'est-à-dire la notion d'un changement qui apporterait des évolutions positives dans le monde, c'est lent. C'est pas quelque chose qui se fait comme un déclic grâce à une crise. Une crise, si vous voulez, elle peut lancer un mouvement, mais l'ensemble des grandes évolutions qu'on a pu observer à l'échelle de l'histoire, quels que soient les pays, elles sont le fruit d'avancer, puis de retour en arrière, de crise, de génocide, de guerre. Et comme le disait Camus, il faut finalement des siècles de douleurs, de sang, de sacrifices pour qu'on obtienne les deux ou trois nuances qui nous permettront de moins désespérer.
Et je rappelle, enfin, je découvre aussi que vous êtes décidément une vraie passionnée de Camus, et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Gilles Finkelstein, puis Natacha.
Oui, vous disiez, je partage ça, on a souvent une croyance excessive dans les vertus des crises, et cette formule qui a été répétée par tout le monde sur le monde d'après en était une illustration, cette nouvelle croyance dans les lendemains qui chantent ce lendemain, pour le coup, en un mot. Donc ça, je partage ça, cette espèce de d'utopie que l'on peut, pour reprendre la formule de Nietzsche, casser l'histoire en deux. Je partage ça. Là où j'aimerais vous interroger, c'est est-ce que entre le refus de cette utopie naïve et un immobilisme résigné, il y a un chemin? Parce qu'à un moment, vous écrivez dans cet essai, espérer un monde nouveau, c'est désespérer du seul qui nous est donné. Mmh. Mais on peut, sans pensant se dire il va y avoir un monde d'après qui va arriver comme ça d'un coup, considérer que, et la crise d'une certaine manière peut aussi nous y aider, que le monde tel qu'il est, eh bien, il ne va pas tout à fait. Ça peut servir de prise de conscience de la nécessité d'anticiper les crises, notamment la crise climatique. Ça peut révéler un certain nombre d'inégalités, notamment d'inégalités sociales. Et donc, ça peut aussi être un levier pour non pas être dans le monde d'après d'un coup, mais pour entamer un mouvement de réforme.
Marilyn Maïsso.
Absolument, justement, je vous remercie de faire cette remarque, ça me permet de clarifier un point. Il faut faire attention, quand je parle de l'illusion du monde d'après, ce qui compte dans l'expression, c'est monde. Le monde, c'est un cosmos, c'est une totalité. Les éléments sur lesquels j'ai voulu revenir avec un regard critique, c'est l'idée que finalement on va pouvoir renverser l'ordre établi, c'est-à-dire littéralement faire table rase et reconstruire un monde idéal par-dessus. Mmh. C'est ça en fait qui pose problème. Et c'est un tropisme qui précède de très loin la crise du coronavirus. On le retrouve avec les expressions du type plus jamais ça, avec l'idée, si vous voulez, qu'on va changer radicalement une situation. Au contraire, ce que j'essayais de décrire dans mon texte n'est absolument pas une validation du statu quo. C'est simplement une explication que les lendemains peuvent chanter, mais ils mettent du temps. C'est pour ça qu'ils sont lents. Ce que je voulais dire, c'est que à force de vouloir survaloriser l'idéal d'une révolution totale, ben on a tendance à minimiser en fait l'effort et le temps nécessaire pour effectivement produire des changements réels. C'est pour ça, enfin, quand souvent, puisqu'on parlait de Camus, en fait, Camus, un anti-révolutionnaire, voire un réactionnaire, Camus, en fait, disait « je ne crois pas aux révolutions définitives ». Ça ne veut pas dire qu'il va éviter les statu quo. Ça veut dire que, au vu de ce que l'histoire humaine a donné, il a compris que les vraies révolutions, en fait, ne passaient pas par des coups d'éclat ponctuels qui changeaient le monde d'un seul coup, mais par des coups d'éclat qui, effectivement, pouvaient engager un mouvement progressif, mais qui ensuite prenaient du temps pour pouvoir à la fois s'installer et se maintenir.
Natacha Polony.
Mais pour prolonger ce que dit Gilles, d'abord la question de ce tropisme qui consiste à croire qu'il faut une révolution qui bouleverserait tout et que c'est la seule façon de changer les choses, mérite qu'on distingue sans doute l'utopie et l'idéal, c'est-à-dire la question de savoir si on rêve d'un autre monde qui en fait viendrait immédiatement.
Je vous entends chanter, Natacha, pardon, mais...
Pardon ?
Excusez-moi, j'avais la chanson de téléphone en tête dès que vous avez cité l'expression « rêver d'un autre monde ». C'était vraiment une assise inutile.
Mais donc dans cette distinction entre l'utopie et l'idéal, l'idéal c'est ce dont on voudrait se rapprocher de façon asymptotique. Et en effet, ça prend du temps. Simplement, le débat entre, finalement, qui est un débat assez classique, entre réforme et révolution, vient aussi du fait qu'il y a dans certains domaines une résistance extrêmement forte du système existant, et quand on considère que ce système existant est injuste, qu'il crée, pour le dire simplement, du malheur, de l'inégalité, le fait que cette résistance soit extrêmement puissante a tendance à créer chez ceux qui veulent changer ce système l'idée que la réforme ne suffira pas parce que la réforme ne changera qu'à la marge. Donc, et de fait, la question est de savoir si nous avons dans l'histoire des preuves d'un véritable changement qui se fasse par des réformes lentes et douces. Et c'est vrai dans certains domaines. La question est de savoir si en matière de lutte des classes, pour employer un mot un peu brutal, ça peut se passer comme ça.
Justement, Marilyn Maheso, d'un mot pour en arriver à l'actualité, donc au sujet dont on avait envie de débattre avec vous, notamment par exemple ces symboles, la chute des statues qui deviennent des manières d'agir et de lutter contre le racisme. La question, juste avant d'y venir, c'est que pour vous, pas de rupture intégrale, mais comment, encore une fois, expliquez-vous qu'on soit sorti d'une crise où on aurait pu penser qu'on était solidaire et que la question qui se pose aujourd'hui dans l'espace public, et Natacha vient d'en parler il y a une seconde, ce n'est pas la question des luttes des classes ou des fractures sociales, c'est une question d'un autre ordre, c'est la question du racisme.
En l'occurrence, je pense très sincèrement que la mort de George Floyd a joué vraiment un rôle catalyseur là-dedans. Je pense pas qu'on peut, si vous voulez, faire abstraction de cette actualité pour expliquer ça. Ces tensions, quand même, autour de la question raciale, elles ne sont pas arrivées juste après la crise. Ça fait quand même un long moment en France qu'elles s'imposent, qu'elles trouvent de nombreuses voix pour s'exprimer dans les médias. Et là, je pense qu'avec, bien sûr, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça n'a fait que jouer un petit peu le rôle de l'étincelle qui a fait éclater tous ces enjeux.
Et vous comprenez la manière dont certains protestent en s'attaquant à des symboles. Je peux parler de statues, mais il y a des propositions aussi pour rebaptiser les noms de certaines rues, de certaines salles dans des bâtiments publics. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault proposait aujourd'hui qu'on débaptise la salle Colbert à l'Assemblée nationale pour trouver le nom d'un personnage qui serait moins controversé de l'histoire de France et pourquoi pas d'ailleurs le nom d'une grande femme plutôt que d'un grand homme. Vous comprenez que ce soit des symboles très différents, mais qui sont malgré tout communs en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, et que ces symboles-là soient des statues, par exemple, des objets, des monuments ?
Justement, j'essaie de comprendre, et pour comprendre, avant d'avoir une opinion sur faut-il être pour ou contre ce genre de démarche, je pense qu'il faut essayer de replacer ça en contexte, essayer de comprendre pourquoi on déboulonne des statues, pourquoi on renomme des rues. Quelque chose, ce sont des phénomènes qui n'ont rien de nouveau. Hein. Les rues qu'on connaît aujourd'hui, elles portaient d'autres noms au siècle précédent, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Oui. Pour ce qui est de déboulonner les statues, généralement, c'est un phénomène qui se produit systématiquement, par exemple, quand un régime tyrannique chute. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de faire tomber symboliquement le pouvoir tyrannique en place. Comme l'a d'ailleurs rappelé récemment l'historienne Mona Ozouf, une statue, c'est pas simplement une page dans un livre d'histoire. Je pense que ça, il faut le souligner. Elle a une fonction qui est honorifique et célébratoire. Oui. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser au contexte. Quand on dit oui, on cherche à effacer l'histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Le contexte ici, on l'a dit, c'est la mise à mort insoutenable de George Floyd par un policier aux États-Unis et la vague d'indignation que cela a suscité. À Minneapolis, pour prendre les exemples concrets des statues dont on parle, l'une des statues qui ont été déboulonnées, c'est la statue de Christophe Colomb.
Oui.
Christophe Colomb, cette statue, qu'est-ce qu'elle célébrait ? Elle célébrait le fameux découvreur de l'Amérique, avec tout ce que cette expression est problématique. Mais du coup, ce faisant, elle passe sous silence le fait qu'il a joué un rôle dans l'esclavage des autochtones. Pour prendre l'autre exemple que vous citiez en Grande-Bretagne, à Bristol, c'est la statue d'Edward Colston qui a été
abattue.
Voilà, il était célébré. Pourquoi on lui a donné une statue ? Parce que c'était un mécène et il était célébré comme un bienfaiteur de la ville. Mais forcément, la statue, du coup, elle dit pas que c'est grâce à la traite négrière qu'il s'est enrichi. Donc, si vous voulez, pourquoi je prends ces exemples ? Parce que, selon moi, il montre que le problème ici, il est mémoriel. Il est vraiment mémoriel. C'est-à-dire que ce que ce geste de déboulonner traduit, c'est une révolte contre une histoire qui est jugée biaisée. Une histoire dont on aurait effacé les taches pour ne garder que les aspects reluisants susceptibles de servir une forme de mythologie politique idéalisée.
Oui.
Et je tiens quand même à souligner, hein, pour qu'on remette ça en contexte, concernant la fameuse statue de Colston, ça fait plus de 10 ans qu'elle est au cœur de controverses sur l'effacement ou la minimisation de l'horreur de la traite négrière.
À Bristol, en Angleterre.
Récent. De la même manière, si on parle de Colomb, Christophe Colomb, les polémiques autour de la manière dont on le raconte, historiquement, elles sont encore plus anciennes. Et de ce point de vue, je pense justement que la comparaison qu'on fait souvent, vous avez dû l'entendre, avec le travail du ministère de la Vérité dans 1984 d'Orwell,
oui,
qui consiste à effacer les livres d'histoire, ou plutôt à effacer des livres d'histoire les événements qui sont jugés gênants pour le pouvoir en place, elle me semble inexacte, parce que personne n'a prétendu effacer Colomb, Colston, Colbert ou que sais-je encore, des livres d'histoire. Le problème, c'est le contraire pour moi ici. C'est que la complexité de l'histoire, à savoir à la fois le côté qui est valorisé par les statues, mais aussi l'aspect sombre de ces personnages historiques, bah pour certaines personnes, elle n'est pas suffisamment équilibrée. Les deux aspects ne sont pas suffisamment mis en évidence. Et c'est vrai qu'une statue, généralement, elle est là pour célébrer, pas pour dénoncer. Et je pense que de ce point de vue-là, la diabolisation de ces personnages historiques à laquelle on assiste, ça me semble une réaction qui est épidermique à leur idéalisation. Puisque dans un cas comme dans l'autre, on refuse de penser la complexité d'un homme. Pour prendre un autre exemple...
Parce qu'on ne la raconte pas souvent.
Pardon ?
Parce qu'on ne la raconte pas et qu'on ne l'enseigne pas.
Exactement.
Le plus souvent.
Mais aussi parce que là, pour le coup, une statue ne parle pas. Si vous voulez, une statue, elle incarne quelque chose. Et surtout, comme on l'a dit, elle a un statut honorifique. Mais prenons l'exemple de la statue de Churchill. Vous savez qu'elle a été dégradée à Londres, on a écrit « racist » dessus.
Oui.
Là, pour moi, c'est un excellent exemple de ce problème. Pourquoi ? Parce que ça montre en fait qu'on est face à un manichéisme inversé, à savoir qu'on nie le fait qu'on peut effectivement avoir tenu, comme Churchill, des propos extrêmement racistes et avoir joué un rôle absolument décisif dans la lutte contre l'un des régimes les plus racistes de l'histoire.
Mona
Ozouf prenait l'exemple de Jules Ferry, c'est exactement pareil. Jules Ferry était un colonisateur et en même temps,
c'est un raciste
bien sûr, et c'est aussi quelqu'un à qui on doit une grande partie des libertés, hein, syndicales, de presse, l'école, dont nous jouissons encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut comprendre le phénomène du déboulonnement plutôt que de s'en indigner, parce que le comprendre, c'est pas le justifier, et au contraire, il faut le comprendre pour essayer de penser des moyens d'aller au-delà ou de vraiment créer quelque chose de productif. Parce que personnellement, à titre personnel,
oui,
je ne crois pas qu'on fasse avancer quoi que ce soit, qu'on rétablisse une quelconque vérité historique en détruisant des statues. Pour une raison très simple, c'est que les mentalités ne sont pas gravées dans le marbre et qu'elles demandent bien plus que ce genre de geste symbolique pour évoluer.
Et on va en débattre, justement. Parce qu'il y a les statues, mais il y a aussi d'autres symboles. Et c'est intéressant de les analyser parce qu'ils sont très stimulants intellectuellement, en tout cas, d'essayer de les comprendre. Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Oui, je pense que il y a en fait, même si je suis entièrement d'accord avec Marine Maizeau sur la question de la contextualisation, de la façon dont on doit entrer dans la complexité de l'histoire, et ce n'est jamais fait. Mais deux problèmes, me semble-t-il, dans la lecture actuelle qui est faite de cela. Premièrement, l'absence de complexité historique, elle ne touche pas seulement la question du racisme, du colonialisme ou de la mémoire de l'esclavage. C'est vrai pour énormément d'autres domaines, que ce soit la question de l'histoire des guerres de religion, de l'histoire de la formation de la nation française.
Mais avouez qu'il y a des histoires qui sont plus à vif que d'autres. Pas...
Oui, mais globalement, il y a une nécessité de travailler, en effet, sur la complexité de la mémoire, mais sans considérer que ce serait juste sur cette question du rapport entre les cultures et les supposées races que cela se jouerait. Ça, c'est le premier point. Avec la dimension qui, du coup, qui aujourd'hui sanctifie l'anachronisme et qui vient reprocher des modes de pensée à des gens qui étaient dans un contexte où ils ne pouvaient pas ou très difficilement penser différemment.
Enfin, Jules Ferry, c'est vraiment pas le bon exemple. Et d'ailleurs, c'était à l'Assemblée nationale qu'il a prononcé les mots les plus fous.
Non mais je ne nie pas ça, je dis juste qu'il y a une tendance actuelle à pratiquer cet anachronisme de façon générale. Et même s'il y a des débats, justement, et si on a une personne comme Jules Ferry qui est à une époque où il aurait pu penser différemment et où il aurait dû, nous pouvons juger qu'il aurait dû, ça n'invalide pas non seulement en effet, ses actions, mais surtout la complexité là aussi, c'est-à-dire que certes, Jules Ferry était peut-être raciste, mais et c'est Mona Ouzouf là aussi qui le rappelait, il était aussi parfaitement conscient du caractère oppressif de la colonisation. Deuxième chose, donc il y a l'anachronisme et il y a la question de l'anti-universalisme, parce que derrière, ce qui est essentiel, c'est la question de savoir si les mémoires que nous transmettons peuvent être transmises à tous, c'est-à-dire nous sommes, et en particulier la France, dans un pays qui accueille des populations qui viennent de partout, et c'est l'identité de la France que d'accueillir et d'intégrer. Or, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, mais on ne peut plus enseigner l'histoire de la même façon parce que il y a des nouveaux venus qui ne sont pas concernés par cette histoire ancienne. Mmh. Et là, il y a quelque chose de complexe.
Marine
Maizeau. Qu'est-ce qu'on veut dire par qui ne sont pas concernés? Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour défendre ce qui me semble essentiel et qui est l'universalisme plutôt que l'idée que nous devrions chacun développer notre propre mémoire.
Marilyn Maizeau.
Alors, sur plusieurs points, sur la question de l'anachronisme, effectivement, le problème qui consiste à juger le passé à travers les lunettes du présent, ça peut poser un certain nombre de problèmes. En revanche, je pense qu'on ne peut pas tout expliquer par là. L'idée qu'une personne serait totalement enfermée dans son présent et dans l'habitus de son époque et donc serait incapable de penser contre son époque, il y a énormément de penseurs qui ont prouvé le contraire. Hein. Pour ce qui est justement de la critique de l'ethnocentrisme occidental, on la trouve déjà chez Montaigne. Donc je pense que, si vous voulez, déjà, c'est une façon quand même de nuancer cette idée-là. D'autre part, Jules Ferry, c'est pas simplement son époque. L'idéologie, surtout le symbole qu'il a laissé en termes de colonisation, ça perdurait bien au-delà, jusqu'au moment de décolonisation, si vous voulez. Cette image d'une France qui aurait pour mission d'aller civiliser des peuples sauvages, c'est quelque chose qui a survécu. Donc on ne peut pas réduire ça simplement à un personnage et à une époque. D'autre part, sur la question de l'universalisme, je suis tout à fait d'accord que aujourd'hui, et ça n'est pas récent, il y a une crise de l'universalisme. Mais justement, quand je dis que ça n'est pas récent, c'est qu'à mon avis, encore une fois, l'importance du contexte et de la connaissance de l'histoire, de notre histoire, ça implique qu'on remette en contexte cette crise de l'universalisme. Elle a vraiment pris un élan particulièrement fort à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Des critiques de l'universalisme extrêmement pertinentes, on en a trouvé sous la plume de gens comme Camus, comme Sartre, comme Frantz Fanon, et c'était des critiques parfaitement légitimes. Je peux penser encore à Lévinas. Parfaitement légitimes parce que ça consistait à dire que l'universalisme, à l'époque dont on parle, donc à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et donc avec ce qui s'est passé avant, il avait servi d'alibi pour élever au rang d'universel un modèle qui était le modèle occidental. Donc à partir du moment où l'universalisme avait été dévoyé pour servir en réalité des idéologies qu'il contredisait, le soupçon qui l'a frappé était parfaitement justifié. De ce point de vue-là, le travail que les universalistes dont je suis ont accompli aujourd'hui, à mon sens, c'est justement de créer ou de recréer un universalisme qui soit véritablement à la hauteur de ses propres principes. Et ça, c'est un travail qu'on a commencé dès l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais qu'on n'a pas terminé. Je pense qu'on ne peut pas se contenter d'affirmer péremptoirement, comme certains le font avec la Déclaration des droits de l'homme, les principes de l'universalisme. Je pense, comme vous le disiez d'ailleurs il y a pas longtemps à Natacha Polony, que les actes comptent plus encore que les paroles. Et je pense qu'il est important d'incarner à chaque occasion qu'on a cet idéal universaliste, mais dans les faits, pas simplement en paroles.
Gilles Finkelstein.
Oui, ce que j'apprécie dans vos propos, c'est cette volonté d'introduire de la complexité, de la contextualisation dans un débat, et j'ajoute, en prolongeant ce que dit Natacha, dans des débats dans lesquels cette complexité et cette contextualisation sont de plus en plus difficiles à introduire, et c'est précisément là-dessus que ma question va porter. C'est un peu sur les conditions de réception dans le débat public de cette complexité et de cette contextualisation, dans la démocratie en général et plus particulièrement dans le débat tel qu'il se noue sur les réseaux sociaux, qui avait fait l'objet de votre précédent livre dont Ali a parlé tout à l'heure, Les conspirateurs du silence. C'est dans quelle mesure cette complexité, cette contextualisation peut trouver sa place dans un débat sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, et peut-être même
vous êtes très active d'ailleurs.
Voilà, et justement une question plus personnelle sur votre pratique des réseaux sociaux. Quand je regarde, il y a un certain nombre d'intellectuels qui n'y sont pas, qui n'y ont jamais été. Je pense à Daniel Cohen. Un certain nombre on a reçu ici même comme Gaspard Koenig qui y était et qui les ont quittés. D'autres qui les utilisent comme un outil de pédagogie. Vous l'utilisez, et voilà, c'est ma question, comme un outil de combat, de débat idéologique. Quelle est votre réflexion sur cette pratique? Parce que, évidemment, elle a pour vous-même un coût qui est très important.
Marilyn Maeso.
Ah, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, entre le moment où j'ai écrit ce premier livre et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que le mot épuisement résume assez bien la situation. C'est vrai que les réseaux sociaux usent, parce que le contexte qui s'y trouve n'est vraiment pas propice au débat. Le contexte systématique, c'est un contexte où on lance des polémiques quasiment journalières et où il y a une polarisation automatique qui se produit. Dans ce cadre-là, si vous voulez essayer de faire résonner une nuance, c'est mission impossible. Et donc forcément, ce qui se passe généralement, ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on prend des levées de boucliers, ou plutôt des insultes, des deux côtés. Du côté des... Enfin, si vous voulez, tout le monde se met à vous détester, alors qu'en fait, vous essayez de faire dialoguer les gens. Donc effectivement, je pense que débattre sur les réseaux sociaux, c'est... Les fois où ça réussit, c'est plus un miracle qu'autre chose.
Mais vous le faites, cependant, la raison malgré tout. J'y reste.
Pardon.
Mais vous le faites justement, oui. Vous essayez malgré tout d'installer quelque chose comme un débat public digne de ce nom dans un espace où rien n'est plus difficile. Mais je vous ai interrompu, vous répondiez à Gilles.
Non mais aucun problème, je le fais parce que, à tort ou à raison, j'ai l'impression qu'en fait on ne peut pas gagner une bataille si on quitte le champ de bataille. Et on parle de Twitter, mais je pense à un autre réseau sur lequel je pense que je vais me pencher très bientôt. YouTube, vous regardez ce qui se passe sur YouTube, par exemple la visibilité des chaînes complotistes, les commentaires absolument odieux, racistes, sexistes, antisémites qui s'y diffusent sans aucune modération. Il y a de quoi, si vous voulez, donner envie de tout abandonner, surtout pas s'y aventurer. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont sur ces réseaux, notamment beaucoup de jeunes. YouTube, c'est un réseau qui est extrêmement utilisé par la jeune population. Or, la population dont on parlait tout à l'heure, hein, cette jeune population, vous faisiez référence à des cours d'histoire qui pourraient plus se passer de la même manière parce que certains jeunes ne seraient plus réceptifs à l'universalisme. Je suis désolée, moi j'ai fait cours et je fais cours dans un lycée où il y a une très grande mixité sociale, et régulièrement j'ai eu un problème qui était que mes élèves arrivaient, avaient entendu Éric Zemmour les considérer comme des sous-citoyens à la radio ou à la télévision, et finalement venaient me poser des questions: est-ce qu'on est vraiment des citoyens comme les autres? Je pense qu'en fait, de ce point de vue-là, entre ça et ce qu'il voit sur YouTube, il y a un vrai problème, en fait, une vraie responsabilité de la part des gens qui ont des connaissances en matière historique, de s'emparer à la fois des médias et des réseaux sociaux pour essayer de transmettre de toutes les manières possibles ce genre de connaissances. Donc je pense que bien sûr c'est beaucoup plus facile dans des médias à la radio, à la télévision que sur les réseaux sociaux. Le problème c'est que les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas toujours sûr. Cela dit, je pense que si on commence à le faire, on donnait plus la parole justement à des historiens qui sont spécialistes de ces questions, qui peuvent remettre les choses en perspective, que à des personnes qui vont caricaturer, instrumentaliser l'histoire et attiser les tensions dans un sens ou dans l'autre, bah peut-être que déjà on progresserait. Après, sur les réseaux sociaux, disons, c'est un combat secondaire, mais qui me semble néanmoins important.
Il nous reste peu de temps, Natacha, et j'avais ensuite une question à vous poser, Marilyn Maïsso, pour terminer.
Alors très rapidement, oui, je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des discours qui font beaucoup de dégâts et que face à cela, hélas, l'universalisme n'est jamais allé au bout de sa logique et il appartient à ceux qui y croient encore de montrer ce que cela est. Mais c'est rendu difficile par une chose, la question du vocabulaire, la circulation des mots. Vous avez tout un chapitre dans votre livre « Les conspirateurs du silence » sur ces mots qui se répandent, racisés, racisme d'État, vous les analysez, vous ne les rejetez pas en bloc, et c'est assez intéressant, et au contraire, vous en acceptez certains. Mais il est vrai que ces mots, moi, j'ai tendance à m'en méfier, parce que même si je suis d'accord avec vous qu'ils ne sont pas faux en eux-mêmes et qu'ils révèlent des choses essentielles, eh bien leur usage dans le monde médiatique et la façon dont ils s'imposent pose problème. Je pense par exemple à un terme comme « privilège blanc » qui est en d'être popularisé. Or, personne ne retourne jamais à l'article de Peggy McIntosh qui a popularisé et finalement confirmé ce terme, et qui est le discours d'une femme blanche privilégiée qui ne comprend pas que son privilège est un privilège social et pas un privilège ethnique, et qui
il
en plus
très peu
y ajoute
Natacha.
Une vision raciste. Elle est capable de parler de la musique de Sarah, etc. Enfin, il faut aller lire ce truc. Donc, comment redonne-t-on un sens aux mots ?
Natacha. Pardon, Marilyn Maïsso. Pour répondre à Natacha.
Je pense qu'effectivement, vous avez fait une distinction extrêmement importante qui est entre les mots, ce dont je parlais dans le livre, et leur usage. Parce qu'effectivement, je pense que le problème, il se situe au niveau de l'usage des mots. Les mots en eux-mêmes, si vous voulez, ils n'ont aucune dangerosité. Le problème, c'est les usages et les mésusages qu'on en fait. En l'occurrence, je pense qu'il faut distinguer le domaine de la recherche, le domaine universitaire, où ces mots, si vous voulez, ont été forgés pour essayer de décrire des réalités. Et de ce point de vue-là, on peut en critiquer la pertinence. On peut considérer, par exemple, que ce que le mot privilège blanc, ou l'expression privilège blanc, désigne est une réalité, mais que peut-être l'expression n'est pas la bonne, ça peut se discuter et ça se fait en contexte universitaire. Le souci, je pense, que c'est à ça que vous faites référence, en tout cas c'est à ça que moi je faisais référence, c'est la manière dont ce vocabulaire est finalement repris dans un domaine militant par des militants qui parfois ne le maîtrisent pas toujours, ou parfois le maîtrisent mais lui donnent des sens un petit peu variables. Je pense par exemple au mot blanc simplement. Blanc, le terme blanc, en fonction du contexte militant, ça peut englober certaines personnes ou au contraire les exclure. Et c'est pas du tout précisé, ce qui fait qu'il y a un flou qui permet un certain nombre d'instrumentalisation et qui cause un certain nombre de problèmes. Donc je pense que le terme important que vous avez prononcé, c'est le terme clarification. C'est un travail évidemment.
Et ça va être le mot de la fin d'ailleurs.
L'un des rôles qu'on a à tenir aujourd'hui, c'est de clarifier le langage, parce que tenir un langage qui n'est pas clair, c'est la meilleure manière d'accroître les mots du monde au lieu de les diminuer.
En tout cas, c'était très clair et c'était passionnant, Marilyn Maïsso, et beaucoup de questions qu'on aimerait reprendre avec vous, et on le fera dans les semaines prochaines. Les lendemains qui chantent, c'est aux éditions de l'Observatoire. Natacha Gilles, à samedi prochain. Merci à Paola Puari qui a préparé cette émission, et je la remercie du fond du cœur pour tout le travail qu'elle a fait à mes côtés. À la réalisation, c'était Coyenne Guyenne. À la technique, Patrick Henry. À suivre sur Inter, le journal.